Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo, enregistrée dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Aujourd'hui, 21e épisode, le triomphe du laïcisme.
Au début de ce 20e siècle qui s'achève en notre temps, l'État français a porté contre les catholiques de notre pays des lois gravement injurieuses. Celle du 2 juillet 1901 avait pour principe d'encourager la vie associative, d'assurer le droit de vivre et de posséder aux sociétés les plus diverses, mais l'article 7 excluait de ce droit les congrégations religieuses. Pour celles-ci, un régime d'exception était établi, aucune ne pouvait se fonder sans une loi, et même pour celles qui étaient déjà autorisées, aucun établissement ne pouvait être ouvert sans un décret. En outre, toute congrégation devait présenter aux autorités civiles la liste complète de ses membres et un inventaire détaillé de ses biens. Voté par le Parlement sur la proposition de Waldeck-Rousseau, la loi fut mise en application de façon restrictive par le gouvernement d'Émile Combes. Plus de 3000 écoles et 1500 monastères ou couvents furent fermés, non sans de multiples résistances, manifestations, défilés, résistances qui allèrent en Bretagne jusqu'aux violences sanglantes. De toutes les congrégations d'hommes ou de femmes, 5 seulement furent autorisées, les trappistes, les cisterciens de l'Hérens, les frères de Saint-Jean-de-Dieu, les missions africaines de Lyon et les Pères Blancs. Les autres furent dispersés ou prirent le chemin de l'exil. Émile Combes déposait un peu plus tard un projet de loi de séparation des églises et de l'État. Rédigé par une commission dont Aristide Briand était le président, elle fut votée à une large majorité en juillet 1905 et promulguée en décembre. Le concordat napoléonien de 1801 était abrogé, la République ne reconnaissait ni ne salariait plus aucun culte, les biens d'église devenaient propriété de l'État. Peu de temps après, l'inventaire des églises donnait lieu un peu partout en France à de violents incidents, les catholiques essayant d'interdire l'accès des sanctuaires aux fonctionnaires et à la police. C'est ainsi qu'on vit à Bechep, dans le Nord, un manifestant tué par le fils d'un inspecteur de l'enregistrement qui avait cru son père menacé. L'église spoliée, les congrégations interdites, les catholiques de France ont vécu cela comme une persécution. Comment pourrait-on s'en étonner ? L'objet de notre trop courte étude est de montrer comment et pourquoi ces événements ont eu lieu et ces mesures gouvernementales ont été portées. Je pense qu'il est utile de s'en souvenir parce que cette crise grave du début du siècle a pesé lourd sur l'histoire religieuse et politique de notre temps. Nos évêques nous le disent bien, dans leur lettre aux catholiques de France, notre situation de catholique dans la société française est dans une large mesure conditionnée par l'histoire de cette société et par ses évolutions actuelles. Un effort de lucidité est nécessaire et nous appartient de regarder en face cette histoire et ses évolutions avec les conséquences que nous devons en tirer pour l'annonce de l'Évangile. Devoir de mémoire, en somme, et devoir d'objectivité. Les radicaux ou radicaux-socialistes, francs-maçons pour la plupart, qui ont voté les lois antireligieuses si nombreuses de la Troisième République, se regardent et ils sont en effet les héritiers des Lumières et de la Révolution. Nous l'avons vu d'une façon assez précise dans le cas d'Augustin Chahaut, qui est un assez bon échantillon du genre, sectateur de ce Ledru Rollin, qu'on considère à juste titre comme l'un des fondateurs du Parti radical. Avant le XVIIIe siècle, il n'y a pour ainsi dire pas d'antichristianisme déclaré. Les hérésies ont pullulé au cours des siècles chrétiens, on a connu des débauchés, des libertins, mais le christianisme, l'essence de la foi, n'est pas mise en question. Cela change au XVIIIe siècle, plus précisément au milieu du siècle, avec Voltaire et les encyclopédistes, dont les uns sont déistes et les autres athées, mais qui tous se livrent à une critique radicale de la foi chrétienne au nom de la raison et de la liberté. Écrasons l'infâme, c'est-à-dire le christianisme, Voltaire ne se lasse pas d'écrire et de répéter ce slogan de son invention. Nous avons vu dans notre premier entretien comment la Révolution avait réuni dans le même opprobre, la même exécration, la religion et la monarchie, le prêtre et le roi. Comment elle s'est engagée dans une œuvre de déchristianisation radicale et comment, sur ce terrain comme sur d'autres, pas sur tous, elle a été vaincue par la résistance chrétienne, par le courage et la foi des populations. Il reste que, à la Restauration, la France est comme coupée, il y a deux France, celle de l'incroyance et celle de la foi, celle de Voltaire et celle de Pascal, celle de la Révolution et celle de la contre-révolution, celle des laïcs, au sens que prendra l'adjectif devenu substantif, et celle de l'Église. Il faudra beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, deux guerres mondiales, un effacement considérable de la religion dans la mentalité, les mœurs et les usages, une laïcisation générale de la vie sociale en somme, pour que cette cassure ne soit plus perçue. Le livre qui concerne notre époque, dans sa considérable histoire de l'Église, Daniel Hobbes l'a intitulé « Le combat pour Dieu ». Depuis la Révolution, en effet, Dieu demande à être défendu. Sans doute, à aucun moment, la persécution ne sera aussi violente et sanglante qu'elle l'a été de 1791 à 1801. Même aux heures sombres du début de ce siècle, la situation n'est pas comparable. Mais la crise est constante. Constante à la tension, la lutte, plus ou moins déclarée, entre les deux Frances, la rouge et la noire, ou comme on disait dans le Bordelais ou sans doute ailleurs, les culs rouges et les culs blancs, les calotins et les laïcards. En schématisant, on peut ajouter que cette crise est vécue de deux façons typiquement différentes par les chrétiens de France. À la manière combative, revendicatrice et facilement agressive d'une droite catholique monarchiste et autoritaire qui donne tous les torts à l'adversaire laïque, s'oppose une gauche chrétienne, lénitive et démocrate, disposée aux concessions, plus portée à critiquer les coreligionnaires catholiques, sinon l'Église, que les partis opposés. De la tourmente révolutionnaire, l'Église sortit en juillet 1801, grâce au concordat signé par le premier consul Bonaparte et le pape Pie VII. Au même moment, obtenait un immense succès une œuvre littéraire qui exaltait le génie du christianisme et ses immenses bienfaits. Ainsi, les cloches de France sonnaient à nouveau, les églises étaient rouvertes, la liberté succédait à l'oppression, la foi s'exprimait à nouveau au grand jour, longtemps, malgré ses erreurs et les hécatombes causées par ces guerres, la France catholique gardera à Napoléon une vive reconnaissance. Sans doute, le premier consul, bientôt empereur des Français, entendait-il tenir l'Église sous tutelle? Il nommait les évêques, qu'il tenait, disait-on, pour des préfets violés. Le contrôle de l'État s'étendait sur bien des détails, par exemple, le nombre des séminaristes était limité. Le catéchisme imposait l'obligation grave d'obéir à l'empereur. Il n'empêche que ces années ont constitué une première époque de restauration et dans une large mesure de liberté, car il y a dans la foi une puissance de liberté, on n'enchaîne pas l'esprit. La restauration proprement dite a lieu après la chute de Napoléon. Restauration monarchique qui ne signifie pas le retour à l'ancien régime. L'Église en particulier ne retrouve pas son statut d'avant la Révolution. Elle continue à vivre sous régime concordataire avec un clergé rémunéré par l'État. Mais elle est favorisée par le pouvoir et se noue alors l'assistance, l'alliance du trône et de l'autel. Qu'on songe à certaines mesures extrêmes, d'ailleurs inapplicables et inappliquées, comme la loi qui punit de mort les sacrilèges. Les écoles sont étroitement contrôlées par les évêques et les curés. Bref, l'Église retrouve une situation de puissance. Et du même coup se heurte à un anticléricalisme intense et très répandu. On en a retenu les chansons de Béranger, les terribles pamphlets de Paul-Louis Courier ou encore les protestations de François Genin. Ainsi, ce dernier rétorquait à un certain abbé Desgarais qui avait dénoncé l'immoralité en vigueur dans l'université. Il est certain pourtant que ni le curé Mingrat, ni l'abbé Contrafato, ni le curé de la Collonge, ni le séminariste Elagabide, qui violait, égorgeait, découpait des femmes et des enfants, ni l'abbé Frilé, qui faisait encore pis, ni la Senère, glorieuse élève du séminaire de l'Argentière, ni l'abbé Roubignac, ce saint vicaire de Valence, qui séduit sa pénitente et sur le point d'assouvir sa brutale passion, lui applique à nu sur tout le corps des médailles bénites et des crucifix rougis au feu. Il est certain, dis-je, que ni ces gens-là, ni cent autres, que pour abréger je les sa part, ne sortaient de l'université. Vous me direz, qu'eussent-ils donc fait s'ils en étaient sortis? L'argument est sans réplique. C'est l'impudicité donc du clergé qu'on dénonce, ou sa fainéantise, comme dans ces quelques lignes de Paul-Louis Courier qui datent de 1823. Nous aurons bientôt plus de prêtres que de soldats, et assurément nous n'en serons pas plus vertueux. Plus de 400 maisons religieuses peuplent nos villes et on cherche à les augmenter tous les jours. Je n'examine pas si cette foule de prêtres, de moines, de religieuses est suffisante. Ce que je sais, c'est que ces hommes et leurs auxiliaires vivent aux dépens de ceux qui travaillent, de la classe utile de la société, à laquelle ils donnent en échange des catéchismes, qui contiennent textuellement l'obligation de payer la dîme et d'obéir. Ou encore, on lit dans le dit petit dictionnaire ultra au sujet des cloîtres, cloître définition, la révolution a détruit ces lieux où la fainéantise et trop souvent les vices abusaient du saint nom de religion. Les ultras qui veulent ramener tout l'ancien régime, à défaut de personnages qui embrassent la vie monastique, voudraient cloîtrer tous les libéraux. Aussi vantent-ils les douceurs du cloître. Dans une page peut-être discutable, mais frappante, de son ouvrage sur l'anticléricalisme en France, René Raymond écrit que le catholicisme prend à cette époque un caractère militant, intransigeant, intolérant, agressif, celui des missions de l'intérieur avec leurs manifestations provocantes, leur piété foraine, leurs démonstrations sur la place publique. La crainte qu'inspire ce néo-catholicisme, les pressions qu'il exerce, entraîne un climat de conformisme et d'ordre moral avant la lettre. Les esprits timorés affichent des opinions qu'ils n'ont pas, professent des convictions qui ne sont pas les leurs. C'est le règne de l'hypocrisie, le triomphe de la tartufferie. De fait, écrit encore René Raymond, la révolution de 1830 s'accompagne d'une explosion d'anticléricalisme populaire qui révèle soudain la profondeur du ressentiment accumulé au fil des années dans certaines couches contre le parti prêtre. Longtemps contenu dans les bornes d'une expression mesurée ou comprimée par la contrainte et la crainte, il jaillit subitement avec une violence incoercible et inspire toutes sortes d'excès. La dynastie tombée, le roi acculé à l'exil, le clergé paie pour la défaite de l'absolutisme. Les croix de mission érigées au temps de la contre-révolution triomphante sont abattues ou mutilées. L'archevêché de Paris est mis à sac en février 1831. Quelques évêques, craignant pour leur vie, mettent la frontière entre eux et leurs diocésains. D'autres conseillent à leurs prêtres de ne pas sortir dans la rue en soutane. De toutes nos révolutions, la Commune mise à part, celle de 1830, est la plus anticléricale. Elle est interprétée après coup comme la défaite des jésuites et la ruine des projets de restauration religieuse avec le concours des pouvoirs publics. C'en est fait, pour un temps, du cléricalisme politique et il ne retrouvera jamais une position comparable à celle dont il avait joui sous Charles X. Tout le temps de la monarchie de Juillet sera marqué par cet esprit, que combat, il est vrai, avec vigueur, un parti catholique puissant dont Louis Veuillot est le coryphée. Avec une acmé vers 1845 ou 1846, année où la plume d'un chaos est, comme beaucoup d'autres, particulièrement acérée. Pourtant, lors de la Révolution de 1848 et de l'avènement de la Deuxième République, il se produit un phénomène inattendu et surprenant. La Révolution et l'Église fraternisent. Les prêtres bénissent les arbres de la liberté et l'on voit des insurgés s'agenouiller devant le Saint-Sacrement. Les affinités ne sont-elles pas évidentes entre les aspirations à l'égalité et à la fraternité libérées par la Révolution et l'Évangile? Les socialistes ne reconnaissent-ils pas en Jésus-Christ, ouvrier, le premier des leurs? L'embrassade sera courte. Les catholiques, avec l'ensemble de la population française, épouvantés par les émeutes ouvrières de juin, soutiennent la réaction qui, d'étape en étape, conduit au Second Empire. La solidarité entre le pouvoir impérial et l'Église vaut à celle-ci, dans les premières années de l'Empire, toutes sortes de satisfactions. Elle gagne sur deux tableaux. Elle obtient un soutien, autorisation, facilité, subvention pour ses propres institutions, exerce aussi un droit de regard sur les institutions politiques. Bientôt cependant, les différents aspects de la question romaine rendent difficile la position des catholiques en face de l'opinion et du pouvoir. Le pape, en effet, regarde comme indispensable à l'Église le maintien de son pouvoir sur ses États, États sur lesquels son gouvernement exerce une autorité anachronique. Il serait trop long d'indiquer par le menu les incertitudes, les palinodies et les contradictions de la politique de Napoléon III concernant le Risorgimento et l'unité italienne. Réactionnaire sur le terrain politique, Pie IX ne l'est pas moins sur le terrain de la foi. en 1854, l'encyclique Quanta Cura et le Syllabus condamnent les libertés les plus élémentaires. En 1858, le pape définit le dogme de l'Immaculée Conception. On s'achemine vers l'année terrible, 1870, où la Prusse écrase la France et l'envahit presque tout entière, où l'armée italienne et les garibaldiens s'emparent de Rome, mais où le premier concile du Vatican définit le dogme de l'infaillibilité pontificale. En France, où l'on s'est bercé de tant d'illusions, la déception est cruelle et immense la colère qui soulève à Paris, au nom d'une idéologie libertaire et socialiste, l'insurrection des communards contre tout ce qui a fait le Second Empire, les catholiques y compris. De toutes les insurrections parisiennes, écrit encore René Raymond, la Commune est sans conteste et de loin la plus agressivement, la plus délibérément anticléricale. On se rappelle l'exécution des jésuites de la rue Haxo et celle de l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois. La politique anticléricale de la Commune est d'abord une politique de représailles. Le décret de séparation, les exécutions d'otages ecclésiastiques manifestent brutalement les sentiments tenus comprimés depuis deux décennies. Mais c'est aussi le réveil d'une certaine tradition. La Commune se proclame fille de la Grande Révolution. Elle renoue avec la politique antireligieuse de la Convention. Le souvenir de la déchristianisation est présent chez ceux qui se réclament du gouvernement de salut public et des comités révolutionnaires. L'hostilité de la Commune à la religion obéit enfin à un troisième ordre de raison qui l'oriente davantage vers l'avenir, la pensée socialiste qui achève de se détacher de toute référence religieuse. Les écoles socialistes font désormais profession d'athéisme, c'est le fait religieux lui-même qui doit être anéanti. En 1858, Pierre-Joseph Proudhon écrivait déjà « Avec un personnel de 82 000 agents qui dans 20 ans aura doublé, avec un revenu de 100 millions qui triplera, avec le privilège de l'enseignement primaire, l'adultération et la répression dans l'enseignement supérieur, le bâillonnement de la presse, la censure des livres, le triage des bibliothèques, la corruption du corps enseignant, avec la connivence de la bourgeoisie à l'appui de 400 000 baïonnettes, l'Église, en 20 ans, aura fait de la France émasculée et domptée ce qu'elle a fait de l'Italie, de l'Espagne, de l'Irlande, ce qu'elle est en train de faire de la Belgique, une société abêtie, société composée de prolétaires, de privilégiés et de prêtres, qui ne produisant plus de citoyens ni de penseurs, destitués de sens moral, armée seulement contre les libertés du monde, finira par soulever contre elle l'indignation des races dissidentes et se faire jeter aux gémonies de l'histoire. La chute de l'Empire et la défaite de la Commune ouvrent la Troisième République. Or, les premières élections, celles du 8 février 1871, procure une assemblée aux deux tiers royalistes et catholiques. Voilà encore, comme en 1815 ou en 1849, un temps de grand retour à la foi traditionnelle. On se rend en foule à de grands pèlerinages, on vote à la Chambre l'érection d'une basilique du Sacré-Cœur au sommet de Montmartre, l'État perd le monopole de l'enseignement supérieur et s'ouvre les facultés catholiques, les hommes d'ordre ont la conviction que le salut de la société prescrit une étroite association de l'Église et des pouvoirs publics. MacMahon préside la période qu'on a appelée celle de l'ordre moral. La République républicaine commence en février 1876 avec la victoire de la gauche aux élections législatives. Et désormais, cette gauche, ou plus modérée ou plus radicale suivant les élections, va garder le pouvoir sans discontinuer jusqu'à la fin de la Troisième République et l'instauration du régime de Vichy au cœur de l'été de 1940. Sa clientèle électorale est assez large pour englober la riche bourgeoisie financière et industrielle, aussi bien que la masse des prolétaires et la classe moyenne. Elle réunit les républicains du centre-gauche, qu'on appelle les opportunistes, les radicaux et les socialistes. Elle est dominée par le parti radical, elle est unie pour la défense de la République, des libertés républicaines et la lutte contre le cléricalisme. Le cléricalisme, voilà l'ennemi. C'est le cri de Gambetta. En matière économique et sociale, la gauche républicaine est profondément conservatrice. Elle défend la propriété et les intérêts des possédants. Ce n'est qu'à la fin du siècle qu'elle instaure l'impôt sur le revenu. Bainville en parle comme d'un socialisme sage qui ne porte pas atteinte à la propriété, un socialisme pratique qui doit distribuer le bien-être par le canal des subventions, des places, des pensions, des retraites. Ce socialisme-là, ajoute-t-il, possède une éminente vertu électorale. De lutte pour les idées, de spirituels républicains et bourgeois, la gauche républicaine n'en trouve que contre le catholicisme, pour exalter contre lui les valeurs de liberté, de raison, de tolérance et opposer aux obscurités et aux superstitions de la foi les claires lumières de la science positive. Contre l'Église, donc, les républicains, les radicaux et les socialistes vont s'en donner à cœur joie. L'homme qui mena les premières campagnes de laïcisation s'appelait Jules Ferry. Il fut ou ministre de l'Instruction publique ou président du Conseil de 1879 à 1885. C'était, dit Daniel Robbs, un doctrinaire glacé, un maçon athée qui avait demandé à la loge de supprimer des statues l'hommage au grand architecte de l'univers. On lui doit un train considérable de mesures, dont certaines étaient bienvenues, mais dont l'ensemble portait un coup très rude à l'influence de l'Église. En 1880, il ouvre l'enseignement public secondaire aux jeunes filles et en exclut tout enseignement religieux. Le 29 mars 1882, il instaure l'école publique gratuite, laïque et obligatoire. Le 19 juin, la loi Naquet légalise le divorce. En 1883, 5 évêques étaient condamnés en justice pour avoir désapprouvé tel manuel d'éducation civique. L'État supprimait leur traitement ainsi que ceux de 2000 curés de paroisse. En 1884, le budget des cultes était amoindri de 5 millions de francs. Mais surtout, dès 1880, de nombreuses congrégations étaient interdites. 261 couvents d'hommes, de jésuites d'abord, puis de dominicains, de franciscains, de bénédictins, de prémontrés, étaient vidés de force. L'enseignement était interdit aux congréganistes. 8000 religieux, plusieurs dizaines de milliers de religieuses étaient concernées par cette interdiction. On le voit, l'offensive antireligieuse se concentra d'abord sur l'école. Tenir l'enfant, c'est s'assurer l'avenir. Les tenants de l'école laïque considéraient que seule elle pouvait assurer l'unité de la nation et former l'enfant ou le jeune homme aux valeurs patriotiques et républicaines, lui donner le goût de la science, de la raison et de la liberté. Tout au contraire, les chrétiens pensaient qu'il n'y a pas de formation morale et spirituelle véritable en dehors de la foi. Cette querelle idéologique empoisonnera la vie collective des Français jusqu'à nos jours. Comme l'école chrétienne est servie par les religieux, c'est immédiatement contre ceux-ci que s'acharna, et de plus en plus, l'action des politiciens de gauche. Dans la période qui suivit les années Ferry, plusieurs événements d'importance inégale contribuèrent à affaiblir la position des catholiques. De 1887 à 1889, le boulangisme, mouvement équivoque, mais tout de même assez clairement anti-républicain et factieux, qu'une partie de la droite monarchiste et chrétienne encouragea. Après novembre 1890 et le fameux toast que la Vigerie prononça à Alger, l'affaire du ralliement, qui divisa les catholiques. Surtout, à partir de 1894 et jusqu'en 1906, l'interminable affaire Dreyfus, où la droite prit le mauvais parti du désordre établi, de l'armée et de l'injustice, quand ce ne fut pas celui de l'antisémitisme. L'historien de Bidour a écrit, peut-être avec quelques exagérations, « Il n'est pas douteux que l'affaire Dreyfus a été la cause déterminante du mouvement anticlérical qui a donné lieu aux lois de 1901 sur les associations et de 1905 sur la séparation. » On l'a vu, le mouvement anticlérical était largement amorcé avant Alfred Dreyfus, mais il est incontestable que la position catholique, sa crédibilité, son prestige ont été considérablement affaiblis par l'affaire Dreyfus. C'est ainsi qu'un adversaire de l'Église, tel qu'Anatole France, a pu écrire « L'affaire Dreyfus rendit à notre pays cet inestimable service de mettre peu à peu en présence et à découvert les forces du passé et les forces de l'avenir. D'un côté, l'autoritarisme bourgeois et la théocratie catholique, de l'autre côté, le socialisme et la libre-pensée. » Le 13 juin 1899, le président Loubet choisit Waldeck Rousseau pour former un gouvernement de défense républicaine. René Waldeck Rousseau, grand bourgeois originaire de Nantes, qui aimait à se dire républicain conservateur, était entré dans la politique au temps de Gambetta et de Ferry, quand les impressions du 16 mai et de la chute de MacMahon était encore vive. Il en gardait deux principes. D'abord, que le cléricalisme est l'ennemi. Ensuite, que pour résister au cléricalisme, l'union des républicains, y compris les plus avancés, est indispensable. Pas d'ennemi à gauche. Il attribuait une influence énorme aux congrégations, en particulier aux assomptionnistes de la Bonne Presse et du journal La Croix. Il s'était fait, dit Jacques Bainville, une image effrayante de moines ligueurs conspirant à remplir l'armée de leurs élèves, à fanatiser le corps des officiers et par là à s'emparer de l'État. Faisant violence à ses habitudes de grand bourgeois, il rechercha le concours des révolutionnaires pour lutter contre cette hydre. L'homme le plus voyant de son ministère fut Alexandre Mirand, terreur de la bourgeoisie, bien que, près de lui, dans cette composition étrange, le général de Galifet, fusilleur des communards, eût été choisi pour dissiper les craintes. Nous avons déjà dit, en commençant cet entretien, comment Waldeck Rousseau exclut les religieux de la liberté d'association. N'entendait-on pas les dépossédés du milliard qu'ils étaient censés détenir? L'homme qui devait achever l'œuvre de Waldeck Rousseau s'appelait Émile Combes. Il était né à Roquecourbe, près de Castres. Bainville en parle de la façon suivante. 40 millions de Français offrent une grande variété de types humains. Sorti du séminaire, savant en théologie, Émile Combes était un de ces originaux que seule la province peut nourrir. Valdegrousseau ne se douta pas qu'il livrait le gouvernement à un monomane. Combes connaissait à fond le droit canon et l'histoire de l'Église. Ce prêtre manqué ne pensait qu'à la lutte contre le parti prêtre et le pouvoir lui apportait l'occasion d'un conflit historique avec la papauté dans lequel il se flattait de briller de toute sa science. Son idée fixe le rendait indifférent à tout ce qui n'était pas affaire de religion. Il semblait rêver la destruction du catholicisme en France. Alexandre Ribot lui lança un jour, en pleine séance de la Chambre, « Vous êtes un théologien égaré dans la politique. » En fait, poussant à l'extrême les dispositions de la loi de 1901, il ordonna la fermeture de milliers d'établissements religieux. En bien des endroits, les moines, les religieuses, furent expulsés par la force publique. D'autres mesures complétaient le tableau, suppression du crucifix dans les prétoires, interdiction faite aux prêtres de se présenter au concours d'agrégation, défense faite aux curés bretons de prêcher ou de faire le catéchisme en dialecte breton, le ministre des colonies d'Oumergue alla jusqu'à chasser des hôpitaux d'Indochine, du Sénégal et de Madagascar les religieuses qui s'y dévouaient. Et encore, il faudrait parler de l'interdiction faite aux soldats de fréquenter les cercles catholiques, de l'institution d'une taxe appelée le droit des pauvres sur les cérémonies religieuses assimilées ainsi aux représentations théâtrales, des poursuites exercées en justice contre les congréganistes demeurés sécularisés en France, de la suspension de traitement des évêques qui les avaient défendus et des curés qui les faisaient prêcher, le gouvernement de Combes poussait ouvertement au pire, allant jusqu'à protéger les manifestants qui envahissaient les églises. Le catholique en France serait-il un paria ? Les mémoires que Combes a laissées portent témoignage de l'extraordinaire fureur anticléricale qui le possédait. « L'expérience m'a appris, écrivait-il, que des passions étrangères à l'esprit religieux animaient de la première à la dernière toutes les congrégations, de quelque nature qu'elles soient. Elle m'a appris que toutes, sans exception, déguisent sous le voile de la piété et de la charité les suggestions du fanatisme le plus intolérant. » et entretiennent dans le cœur de tous leurs membres la haine de notre société moderne, de ses institutions, de ses lois. Faisant le bilan glorieux de son action, l'application impitoyable de la loi des associations, dit-il, avait refoulé au-delà des frontières les innombrables et dangereuses congrégations qui s'étaient implantées sur notre sol à la faveur de 50 années de coupable tolérance. Une sentence de mort avait été rendue contre l'enseignement congréganiste. Il n'était au pouvoir de personne de s'y soustraire. Entre le gouvernement de Combes et le Vatican, les difficultés se multiplièrent. Combes prétendait nommer les évêques sans l'accord du pape. Celui-ci, c'était Pidis, leur refusa l'institution canonique. Combes se porta au secours d'évêques scandaleux, le Nordès de Dijon et Guy de Laval, que Rome sanctionnait. Pidis refusa de le recevoir lorsqu'il rendit visite à Victor Emmanuel II dans la ville récemment ravie au pape par la monarchie italienne. Les relations diplomatiques furent rompues entre la France et le Vatican. On s'acheminait vers l'abrogation du concordat et la loi de séparation quand le gouvernement d'Émile Combes tomba à la suite des scandales dont furent les tristes héros le ministre de la Marine, Pelleton, et celui de la guerre, le général André, celui qui mettait sur fiche, à partir des renseignements fournis par les loges maçonniques, les positions des officiers de l'armée française en matière de religion. Le ministère Rouvier se chargea de mettre au point la loi de séparation sur les plans d'Aristide Briand, ministre des Cultes. Elle réduisait l'Église de France à la plus stricte pauvreté, mais lui assurait en même temps une liberté qui ne serait pas un mince avantage. Tout cela se déroula dans un climat d'extrême passion. Les discussions s'éternisèrent sur les associations cultuelles que Briand proposait de constituer avec des laïcs pour la gestion des lieux de culte, les inventaires auxquels les pouvoirs publics se livrèrent pour relever les richesses de l'Église se heurtèrent à l'opposition farouche de fidèles qui firent un barrage de leur corps, et il arriva dans certaines paroisses, comme à Bidaraille, que la force armée dut s'avouer vaincue et renonça à pénétrer dans le temple. Et on raconte encore qu'en certains villages pyrénéens, les paroissiens attachèrent des ours à la porte de l'église. Les francs-maçons entendaient se servir de la séparation pour détacher de l'église la nation, la famille, les individus, selon les formules de Ferdinand Buisson. Un merveilleux instinct des besoins et des devoirs de la démocratie y poussait, disait-il. De son côté, Pie X, de façon répétée, par les encycliques Vehementer Nos de février 1906 et Gravissimi Officii d'août de la même année, condamna toutes les parties des mesures gouvernementales. La séparation était, disait-il, une injure à Dieu et une iniquité envers l'Église. La séparation devait pourtant apporter à l'Église de France de notables avantages. Au fil des années, diminuerait l'extraordinaire hargne anticléricale et même antireligieuse dont notre pays a souffert. Le clergé français, écrit Daniel Rops, allait connaître un élan qui ferait de lui un des meilleurs du monde, le moins inféodé en tout cas aux intérêts matériels et au pouvoir. Plus uni, plus homogène, plus discipliné, plus héroïque, il se révélerait de plus en plus apostolique. Les laïcs lui seraient de plus en plus attachés. La séparation qui, dans l'esprit des anticléricaux fanatiques, devait consacrer la ruine définitive du catholicisme en France, fut au contraire pour l'Église l'occasion d'un extraordinaire renouveau. Oui, de 1905, date de la séparation, à 1962, année où s'ouvrit ce concile dont nous parlerons, l'Église de France, malgré des ombres sans doute, l'Église de France a écrit une bien belle histoire.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo, c'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, le 22e et dernier épisode sera consacré au Concile Vatican II.